Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Pluriel 106.3 et c'est Vive la Sociale qui revient et on essaye de faire le point sur la crise avec François Chenet qui a déjà été notre invité plusieurs fois, que nos auditeurs connaissent, en tout cas nos auditeurs fidèles. Et on essaie de voir un peu comment ça se passe ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est qui a justifié cette espèce, comment dire, de vague d'optimisme, si on peut s'exprimer dans ces termes, de la part de nos responsables politiques et de la part d'un certain nombre d'économistes et surtout des médias, voir si cet optimisme correspond à la situation réelle déjà. En fait, si on regarde un peu les statistiques, par exemple, du chômage aux États-Unis et en Europe, on ne dirait pas qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. On dirait en tout cas qu'il y a plus un ralentissement de la progression qui s'est pour l'instant produit qu'une inversion des tendances. Pour d'autres choses qui ont relativement jusque-là endigué dans certains secteurs les effets de la crise, il pourrait y avoir des effets d'essoufflement ou bien il pourrait y avoir aussi des effets non coordonnés, ne serait-ce qu'au niveau européen. Je pense par exemple à la prime à la casse pour ce qui concerne les bagnoles, dont les médias ont beaucoup parlé ces derniers jours. Une prime qui est renouvelée en France, mais pas forcément en Allemagne, où les effets de ces mesures peuvent s'essouffler. L'impression que la situation ne s'est pas vraiment assainie aux États-Unis est quand même assez forte si on regarde un certain nombre d'informations qui viennent de l'extérieur, des frontières de notre beau pays. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On voit par exemple que le flot des faillites bancaires ne s'est pas étendu en France, mais aux États-Unis, on était hier à la 84e banque qui faisait faillite. Donc, tout cet optimisme, on a l'impression qu'il est un peu peut-être hors propos. Mais bon, ça, on va voir avec François. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va voir d'un peu plus près quelles sont les lectures qu'on peut faire de cette crise. Voilà, on commence déjà alors de ton impression par rapport à cette vague d'optimisme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les justifie? Et quels sont les événements, les faits qui, à ton avis, permettent à nos responsables de s'appuyer là-dessus pour nous dire que les choses vont mieux?
Une crise économique grave, hein, et c'est un moment et double. C'est un moment dans lequel la légitimité sociale du capitalisme, pas seulement en tant que système économique, mais en tant que mode de domination sociale, est mise à l'épreuve, la légitimité est secouée, et il faut que la bourgeoisie, ses dirigeants, ses gouvernements, montent au créneau pour la défendre. Et c'est aussi un moment où le capital, confronté à des difficultés, s'en prend plus que jamais aux travailleurs et voit la crise à la fois comme une contrainte, mais comme une occasion de se restructurer. Hein. Donc, il y a cette double dimension aujourd'hui, hein, et c'est que des mesures ont été prises qui ont eu des résultats. Ces résultats sont gonflés par les médias et pour endiguer une crise de légitimation potentielle du capital, mais en même temps, les licenciements collectifs de grandes et moyennes usines se poursuivent et de nouvelles fermetures sont prévues, sont annoncées à l'automne. Hein. Donc voilà le cadre général qui est un cadre déguisement des affrontements sociaux et que la bourgeoisie, que les groupes financiers, le gouvernement cherchent bien évidemment à masquer dans sa dimension d'affrontement aiguisé, mais dont la réalité est dans et les actes au niveau des fermetures d'usines marquent la réalité. Alors, à la fin de l'année dernière, il y a eu aux États-Unis, en Europe, au Japon, mais aussi en Chine, des injections d'argent pour sauver les très grandes banques et pour ensuite intervenir dans la récession économique pour aider de grandes entreprises à limiter et la chute de la production et à commencer à se restructurer, des sommes immenses, des sommes et d'une dimension jamais connue avant, ni en termes absolus, et encore moins en termes relatifs par rapport au produit national, en termes de pourcentage du produit national de différents pays. Et le freinage de la récession économique et qui a commencé à se produire à partir du mois de juin est considéré par tous ceux qui sont un peu lucides comme et la conséquence quasi mécanique de cette injection d'argent. Hein. Si ça n'avait pas eu lieu, ça aurait été extrêmement grave. Cet argent a aidé à freiner la crise, mais en termes relatifs, hein, la chute de la production et les pertes d'emplois se sont ralenties avec des différences de pays à pays. Sur cette base-là, les investisseurs financiers, les marchés financiers, les bourses se sont mis à spéculer de nouveau à la hausse d'un certain nombre de titres. Et donc, il y a eu une remontée des cours de bourse, mais ça traduit deux choses. Ça traduit une euphorie totalement superficielle et ça traduit le fait que, malgré l'ampleur des pertes boursières dans certaines places, en particulier à New York et à Londres, il reste encore une masse très importante de capital de placement et qui doit absolument bouger, trouver des spéculations et qui réagit aux différentes informations et très, très passagères, très, très transitoires par des mouvements de hausse et parfois de nouvelles chutes des bourses. Mais l'un des observateurs américains les plus perspicaces, cet homme qui s'appelle Rubini, a lui annoncé la possibilité, les risques de ce qu'il appelle, une crise en W, une crise qui comporte une remontée, une nouvelle euphorie, de nouvelles bulles spéculatives pour se heurter de nouveau à la réalité. Hein. Et la réalité, c'est celle des fermetures d'usines qui poursuivent et du rétrécissement de l'appareil de production qui se poursuit et donc des mises au chômage qui se poursuivent, et d'un formidable endettement des ménages, des États, et maintenant de nouveau des entreprises, qui freinera, bloquera toute reprise, et qui contient, au contraire, en germe, la possibilité de nouveaux effondrements de la production.
Donc, si je comprends bien, tu penses que c'est tous ces beaux discours qu'ils nous font sur la moralisation du capitalisme, sur la chasse aux traders, c'est de la fumée dans les yeux déjà. Et d'autre part, les mesures qui ont été prises en termes d'injection de capitaux dans les banques, et dans certains secteurs de l'économie, notamment l'auto ou le bâtiment. Le bâtiment encore, bon, on ne le voit pas tellement, en tout cas en France, aux États-Unis peut-être un peu plus, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas du tout à la hauteur entre guillemets, des besoins du capital pour redémarrer.
Et derrière le fond de la crise, hein, c'est une très très importante suraccumulation de capital, hein, sous la double forme de suraccumulation et de capacité de production dans certaines industries, commencer par l'automobile, et qui s'accompagne de carences de l'appareil productif dans d'autres secteurs où le soutien par le crédit n'est pas aussi fort, où il faut répondre à de vrais besoins sociaux, etc. Et parallèlement à ça, il y a eu cette accumulation fantastique d'argent ne pouvant plus s'investir dans la production et vivant une vie fictive sur les marchés financiers avec des spéculations de plus en plus importantes. Le krach financier a été spectaculaire, il a été important, mais il a laissé inentamée une partie de ce capital qui ne vit que de spéculation. Et la manière dont les plans de relance ont été financés, en particulier en France, c'est-à-dire par l'émission de titres, par l'emprunt. Hein. Dans le cas de la France, c'est pas la, y a pas eu de fonctionnement de la machine à produire des billets. Il y a eu emprunt aux investisseurs financiers et donc endettement accentué de l'État et renforcement de la masse du capital et de placements financiers de spéculation entre les mains de ces investisseurs. On est dans une situation parfaitement pourrie du point de vue éthique et social, et qui porte en elle des affrontements futurs très, très importants. Pour répondre à ta question directement, bien entendu que ce qui se prépare pour le nouveau G20 à Pittsburgh, ce que Sarkozy a fait la semaine dernière, admonester de nouveau les grandes banques sur les grandes entreprises sur les bonus, taper du poing sur la table sur la difficulté du crédit aux petites et moyennes entreprises. Tout ça, c'est de la frime, comme les petites encore chevées à la souveraineté des paradis fiscaux. Là encore, les choses sont claires. Du fait de la pression américaine, la Suisse a été obligée de donner le nom de ressortissants américains avec des comptes en Suisse. La France en a profité pour faire de même. Le ministère des finances à une liste de quelques 3000 noms, mais on leur a offert le blanchiment s'ils se mettent au clair avant décembre et s'ils rapatrient un petit peu de ce qu'ils ont passé en Suisse et payent un minimum d'impôts. Donc on est vraiment dans quelque chose de parfaitement pourri et avec rien de résolu. Hein. Le cas de l'automobile, c'est le cas le plus clair. Chaque gouvernement ayant une industrie automobile, soit nationale, soit dans certains cas étrangère, mais installée sur son sol, a allongé des sommes très importantes pour sauver cette industrie-là, maintenir des capacités et retarder les restructurations, retarder le moment où la question de l'automobile par rapport au transport public, par rapport à la consommation d'énergie, par rapport aux émissions de carbone à effet de serre, tout ça est retardé et où se développent les germes de ce qui va être nécessairement un moment de concurrence, confrontation aiguë entre les différents pays qui ont des industries automobiles. Il faudra à un moment donné que des capacités soient détruites, que la question de l'automobile soit vraiment traitée. Et je pense que les gens le sentent. Enfin, il y a un drôle de climat social en ce début de septembre, de septembre, de malaise profond face à ce chômage qui augmente, ces gesticulations gouvernementales, l'appui que ça reçoit des directions syndicales, la conférence de presse d'un cynisme absolu de Bernard Thibault aujourd'hui, tout ça crée vraiment un profond malaise.
Bem acordado, quando o povo desperta, pra sair com ele à praça, em meio à sua massa, espero que pra cantar. Na frente de peito aberto, vou com ele, meu senhor. Passo a passo, braço dado, ombro a ombro, lado a lado, no caminho que ele for. Mas diz que vai virar e eu não vou, diz que vai virar e eu não vou. Diz pra nós que afinal lembrou que o castigo já nos foi demais.
Diz que agora vai ser tudo igual e que vai matar o que seja de mal. Dá pra gente ao menos um sinal de que vale a pena ser de paz.
E eu não vou, meu senhor, veja se entende. Deste canto a pretensão, vê se atende este pedido de um cansado e sofrido que pede de coração. Esperança foi semente que alguém um dia plantou, e hoje é quase desespero. Que Kevin seja primeiro, nosso pranto já secou. Mas diz que vai girar e eu não vou, diz que vai girar e eu não vou. Diz pra nós que afinal lembrou que o castigo já nos foi demais.
Diz que agora vai ser tudo igual e que vai matar o que seja de mal. Dá pra gente ao menos um sinal de que vale a pena ser de paz.
Eu não vou, e senhor, tenha certeza, tenha fé que assim vai ser. Toda pobreza e desgraça vão se perder na fumaça do fogo que vai nascer do toque de nossa mão. Por sua força e valor, esta terra por inteiro, como este violeiro, vai saber o que é o amor. Mas diz que vai virar e eu não vou, diz que vai virar e eu não vou. Diz pra nós que afinal lembrou que o castigo já nos foi demais.
Diz que agora vai ser tudo igual e que vai matar o que seja de mal. Dá pra gente ao menos um sinal de que vale a pena ser de paz.
E eu não vou.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et toujours Vive la Sociale. Ce soir, on discute avec François Chenet de la situation de la crise. On essaie de faire un point. Tout à l'heure, dans la toute première partie de l'émission, François nous parlait de la suraccumulation du capital, un peu donc de sa grille de lecture de la crise. Il faisait allusion aux capitaux fictifs qui se baladent sur les marchés et qui ne trouvent toujours pas une valorisation suffisante, ce qui donne des nouvelles petites bulles, des sursauts. Et les interventions des différents États qui, grosso modo, ont visé à retarder les nécessaires restructurations. Je schématise excessivement ce que tu venais de dire dans la première partie. Mais je voudrais qu'on fasse un tout petit pas en arrière sur les lectures à la fois qu'on peut faire de la crise, qu'on nous propose d'une façon plus ou moins explicite dans les différents médias, et ou alors dans la lecture de certains économistes dits de gauche ou même d'extrême gauche. Et ensuite, bah, évidemment, ta propre grille de lecture pour que nos auditeurs aient une idée de ce qui se présente sous nos yeux en termes d'analyse. Est-ce qu'on commence, par exemple, par ce qu'on nous a proposé à longueur de mois sur une crise qui serait financière, simplement déterminée par des actifs pourris, les banques américaines qui ont donné à des mauvais payeurs des prêts, généreusement, on dirait. On ne les a présentés quasiment comme des institutions de bienfaisance qui, excessivement laxistes, ont donné des prêts à des gens qui étaient incapables de payer. Et finalement, tout ça a provoqué, par un effet de domino, des remous au niveau international. Comment tu vois ces choses-là?
Oui. Je pense que il y a eu effectivement un premier moment de la crise et dans laquelle on a dit qu'elle était financière, qu'elle était le fait des États-Unis et que s'il y avait contagion et à partir des États-Unis et vers l'Europe, le Japon, le reste du monde dans le système financier, c'était la faute des Américains. Je pense que quand même, en France, sont sortis des livres, en particulier de Paul Jorion, qui ont bien montré que le système hypothécaire américain était un système quasi-mafieux. Hein? Un système dans lequel on présentait des gens et au boulot précaire, hein, parfois presque illettrés, en tout cas incapables de lire des contrats, hein, mais dont il y avait eu un bourrage de crâne, hein, et par le rêve d'Américains, entre guillemets, tous propriétaires, hein, on leur a présenté des contrats hypothécaires et qui avaient un caractère suicidaire pour eux-mêmes, hein, mais aussi il s'est avéré et absolument et une espèce de char d'explosif à retardement pour le système financier américain et international dans son ensemble, hein, puisque ces titres hypothécaires impayables, hein, potentiellement impayables dès le départ et trouvés preneurs après vente des établissements de crédits initiaux qui les avaient émis et auprès de banques d'affaires avec pignon sur rue qui les cachaient dans des paquets d'actifs qui étaient revendus sur les marchés mondiaux, hein, de sorte qu'il y a eu contamination très forte du système britannique, lui-même engagé pour le compte de l'industrie de la construction britannique dans le même type d'activité, mais avec des surprises comme des banques régionales allemandes qui auraient pris aveuglément, dans une méconnaissance totale de ce qui prenait comme titre, des paquets de titres avec ces actifs pourris. Hein. Alors, ce qu'on sait, hein, c'est que ce processus n'est pas assaini complètement. Hein. Malgré un certain nombre de faillites, malgré des aides très importantes à un certain nombre de banques, la partie du système financier, les banques et les compagnies d'assurance et les fonds de placement qui ne se sont pas trouvés et dans l'obligation immédiatement de reconnaître qu'ils avaient des actifs pourris, n'en ont pas fait état. ils les ont toujours sur leur compte. Hein, et personne ne sait ce que ça peut donner. Hein. Tout ce qu'on sait que ça donne, c'est une extrême réticence de la part de ces banques de faire des opérations de crédit considérées comme normales à des entreprises ou même à des ménages dont les revenus sont absolument garantis. Hein. Il y a cet élément-là qui dure complètement. Hein. Avec le krach financier de septembre et de l'an dernier, du 15 septembre de l'an dernier, et le plan Paulson et les plans britanniques et puis ensuite européens de sauvetage des banques, on est passé à un autre stade, et dans le cas des États-Unis, ça a provoqué une récession ouverte. Et c'est à partir de la récession ouverte que se sont présentées, ont été proposées différentes interprétations de l'acte. La courante à gauche a été, elle est un petit peu moins aujourd'hui, mais elle est toujours là, c'est que la crise, c'est... Et la conséquence directe de la déformation de la structure du partage de la valeur ajoutée entre capital et salaire.
Hein. C'est-à-dire, les salaires sont à la fois plus bas, il y a plus de chômeurs, donc... Les salariés ont moins d'argent qu'ils peuvent dépenser et donc ils dépensent moins et donc ils ne permettent pas à l'économie de tourner, si je comprends bien.
Oui, mais l'explication a été donnée avant que même que cet enchaînement
se
produise. Et c'est-à-dire que... c'était une explication dans laquelle, au fond, il suffisait d'augmenter fortement les salaires, donner un pouvoir d'achat important aux salariés d'abord la crise n'aurait jamais eu lieu et d'autre part la crise pourrait encore être stoppée. Hein. Alors, et pourquoi est-ce que cette explication est devenue moins forte dans son expression et en raison de la nature et des processus qui se sont révélés dans les fermetures d'usines. Hein. J'avais étudié avec d'autres, et d'autres l'ont rappelé comme moi, j'avais étudié la crise brutale que l'Argentine avait vécue. Hein. L'importance qu'avait eu la réponse des travailleurs d'usines parfois très importantes d'occuper l'usine et de dire si le patron s'en va, nous on reste et on continue à faire marcher l'usine. Hein. Et on continue en assurant pas seulement la production, mais d'assurer la commercialisation. Hein, les entreprises autogérées argentines ont produit, mais aussi ont écoulé leur production dans des relations souvent de négociations avec d'autres usines, soit dans le même cas, soit avec un patronat continuant à accepter de cette production, mais dans le cas de Continental ou de Goodyear, personne n'a dit on va continuer à produire des pneus, hein, et on va occuper, on va autogérer, on va continuer à produire les pneus. Hein.
Mais je dirais qu'il y avait une différence fondamentale par rapport à ce qui s'est passé en Argentine. Si mes souvenirs sont bons, en Argentine, il y avait des entreprises qui ou bien produisaient directement pour la consommation ou bien produisaient des services comme des hôtels. Donc, c'était des choses qui n'avaient pas vraiment besoin d'intermédiaires, tandis que Continental ou d'autres sont souvent des entreprises qui produisent dans les cycles d'automobiles.
Oui, bien sûr. Et donc, on s'est rendu compte en France qu'on était dans des processus d'internationalisation de la production, de chaînes de production longue, complexe, hein, et que du coup, l'idée qu'avec une augmentation des salaires, il y aurait immédiatement une répercussion sur la demande, hein, et c'était quelque chose qui était en partie une vue de l'esprit, hein. Et au fond ceux qui ont le mieux et appliqué cette logique sont les gouvernements qui ont offert des primes à la classe, des subventions au remplacement des voitures particulières, ils ont créé ce pouvoir d'achat spécifique pour un produit spécifique, mais sans passer par une augmentation générale des salaires. Hein. On ne peut pas aller très loin avec l'idée que ce serait un défaut de pouvoir d'achat populaire qui serait la cause immédiate et qui contiendrait la solution à la crise. La crise exige des solutions tout à fait différentes de restructuration des appareils de production sur la base de formes de propriété nouvelles. Je veux dire, la crise, et par sa longueur, ses effets sociaux très longs et très pénibles, crée une situation où quelqu'un doit absolument poser la question des rapports de propriété. Et sur la base de rapports de propriété, l'appareil de production peut être reconstruit pour tenir compte de façon claire, centrale, de la crise écologique et puis pour répondre aux besoins sociaux. Mais pour ça, il faut contrôler l'appareil de production. Hein. Et ça deviendra le vrai enjeu de la crise. Alors, l'autre thème qui a été très fort, c'est l'idée des errements de la finance et de la possibilité, sans démonter l'ensemble de la structure de la finance, sans faire crever la montagne de capital fictif, de créer des mécanismes qui permettraient à la finance d'agir de façon plus responsable. Hein. L'économiste français, le plus écouté au centre et à gauche, c'est Michel Aglietta. Et lui, il est toujours sur cette ligne-là. Et bien entendu, il est désespéré de ce qui se passe, de cet escamotage complet de toute mise en œuvre de mesures véritables pour assainir le système financier. Hein?
Mais est-ce qu'il est seulement possible d'après toi, qu'ils arrivent à assainir les systèmes financiers. Est-ce que cette possibilité existe?
Non, elle n'existe pas, parce que la finance demeure extrêmement puissante. Tu as parlé des faillites bancaires aux États-Unis, et c'est de nouveau comme il s'était passé, entre 1980 et 1982 aux États-Unis. Il s'agit de faillites de petites banques locales, régionales, hein, parce que les États-Unis ont eu jusqu'à présent, peu à peu, ce caractère disparaît, un espèce de système financier dual. Il y avait les banques de New York, il y avait tout le système financier ultra-centralisé, ouvert sur l'économie mondiale, et puis il demeurait, hein, des banques régionales, et ce sont celles-ci qui sont en train de faire faillite aujourd'hui les unes après les autres pour être rachetées, restructurées dans un processus de concentration accrue du capital. Parce que, comme je l'ai dit au début, dans la crise, le capital se restructure et la partie des capitalistes qui s'en tirent en profite pour renforcer leur position, et les gouvernements, bien sûr, les aident à faire cette concentration, cette forme de restructuration qui va à l'encontre, bien entendu, totalement des intérêts des travailleurs, des salariés, des citoyens, puisqu'il accentue la polarisation sociale, et il tourne le dos plus que jamais à la satisfaction des besoins qui auraient vraiment besoin d'être satisfaits.
Mais ça, c'est évident que la satisfaction des besoins n'est pas vraiment le premier souci de ni des responsables politiques, ni des responsables des grandes institutions financières ou même des grandes entreprises. C'est plutôt la sauvegarde de leurs propres institutions, de leurs profits, du mécanisme d'ensemble du capitalisme qui est en place. C'est plutôt ça qui est au cœur de leurs préoccupations. Tu disais qu'ils essayent de retarder les restructurations nécessaires, semble-t-il, du point de vue du mécanisme de la crise. Mais finalement, il y a un processus de destruction de richesses qui doit se faire forcément dans la crise, qui pourrait se faire sous la forme d'une guerre ou de plusieurs guerres, qui peut se faire sous la forme de destruction de richesses, comme on le voit par exemple aux États-Unis avec un certain nombre de maisons dont les propriétaires sont expulsés et qui pourrissent sur pied, tout simplement parce qu'elles ne sont pas occupées. Il y a destruction de richesses, mais est-ce qu'on peut considérer qu'on arrivera à un niveau tel de destruction de richesses qui peut permettre un redémarrage du mécanisme qu'on a connu jusque-là, ou pas, à ton avis?
Écoute, moi je me refuse à tenir cette espèce de regard un peu objectiviste sur la fonction des crises. Effectivement, la fonction des crises, c'est d'opérer une destruction de capacités de production, de moyens matériels divers, qui permettent une demande pour de nouveaux investissements, avec profit de se faire. Hein. Et on sait que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a constitué la sortie de crise, de la crise de 1929 et des années 30. Par rapport à ta question, la réponse, c'est que, assez curieusement, bien que la bourgeoisie soit dans des conditions de rapport de politique avec la classe ouvrière qui lui soit extrêmement favorable, elle a une extrême peur de laisser jouer la crise. Du point de vue de la bourgeoisie, il y a justement mise en œuvre de tout pour retarder, atténuer le jeu des mécanismes qui permettraient un vrai assainissement du taux de profit. Dans le cadre de cette situation d'extrême prudence, les grandes entreprises agissent quand même. Hein? Les fabricants de pneumatiques, eux, ils ont bien compris la situation. Ils ont compris que l'avenir de l'industrie, pour autant qu'il y en ait une, était en Chine et en Inde et en Asie en général. Et donc, ces groupes ferment leurs usines en Europe, hein, restructurent et redéploient mondialement leur capital, hein, leurs activités, Et on est dans une situation qui va être d'une longue souffrance, d'une longue agonie, en particulier dans les pays industriels anciens. Dans le cadre européen, dans le cadre d'un pays comme la France, où il y a encore une démographie, où la classe ouvrière a une jeunesse, ce sont les conditions de reproduction sociale qui sont en question. Le chômage structurel de masse, c'est quelque chose qui pose les conditions de la reproduction sociale, et disons, hors des conditions de la simple survie. C'est cette question-là qui est posée maintenant dans la crise, et que la longueur même de la crise ne va faire qu'accentuer, à la fois de rendre très douloureux, mais peut-être créer les conditions pour que soit dit collectivement partir d'espace comme celui de cette radio et de ses auditeurs, et qu'il y a des questions de survie qui sont en cause, et que les questions de survie posent la question qui doit décider la production, pour qui, pour quels objectifs, qui doit dire c'est eux ou c'est nous, et c'est la question de la propriété. C'est pas la question de demander plus, personne ne demande plus, et sauf de meilleures indemnités de licenciement, c'est de changer totalement la perspective. Et donc, je pense que cette situation, je répète, très particulière, on a affaire à des bourgeoisies qui ont des mises en scène, etc., mais derrière lesquelles il y a au fond une profonde inquiétude, un propre sentiment d'absence de légitimité, et que le bateau coule. Je veux dire, enfin, le cas extrême, c'est celui de l'Italie, mais laisser quelqu'un comme Berlusconi au pouvoir traduit une espèce de vision de l'avenir très, très particulier.
Oui, bon, là, on avance dans un terrain.
Thank you.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Et c'est toujours Vive la Sociale avec François Chenet. On discute de la crise. Dans les lectures de la crise que nous avons essayé d'aborder dans la plage précédente, ben François a touché en fait le cœur de la question qui nous intéresse, c'est-à-dire cette sortie de crise nous ramène à une possibilité qui nous est donnée aussi de sortie, pas seulement de crise, mais du mécanisme qui l'a produit et donc du capitalisme. Mais pour sortir du capitalisme et de la crise qui amène à une espèce de longue agonie, comme il l'a défini tout à l'heure, il faudrait que la question qui décide et sur qu'est-ce qu'on produit, comment on produit et dans quelle perspective, en quelque sorte change de camp, que la question de la propriété des moyens de production soit posée et qu'on passe à un autre registre que celui qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est les patrons qui doivent payer la crise, c'est les gros qui doivent payer la crise.
Il faut introduire la dimension de la crise écologique à laquelle je me suis intéressé de plus en plus depuis 2 ans maintenant. Au fait que cette crise écologique, dans sa dimension de crise de certaines ressources, de crise de l'eau potable, de crise des moyens alimentaires, des moyens de reproduction sociale élémentaire pour un certain nombre de populations, se trouve vraiment posée par le fonctionnement du capitalisme mondial. L'exemple le plus parlant, l'Arabie saoudite avait commencé une agriculture intensive et ils se sont rendus compte que ça pompait la faible nappe phréatique à une vitesse très rapide. Ils ont donc décidé d'abandonner l'agriculture chez eux. Ils ont acheté un pan entier du Soudan, hein, où il y a des ressources en eau offertes par le Nil. Et ils ont acheté ou loué avec un bail de 99 ans d'immenses terres. Et ils importent donc chez eux des ressources alimentaires et des ressources en eau dans des conditions où leurs exploitations sont entourées de gens qui crèvent. Cette fois-ci, ce qui est analogue par certains de ces aspects à la crise de 1929 et la crise des années 30, s'accompagne de phénomènes de ce type-là dont les effets politiques et sociaux déstabilisateurs mondiaux sont immenses et les raisons de mise en cause de la légitimité du capitalisme s'accroissent. Et puis, il y a le changement climatique qui est quelque chose dont maintenant on sait que des effets brutaux vont se produire à très court terme, à une échelle de 10 à 15 ans. Et donc, il y a cette dimension de problème de reproduction sociale qui se trouve posé à la fois pour certaines classes ouvrières de façon spécifique, mais pour cette collectivité totalement abstraite pour l'instant des travailleurs à l'échelle mondiale et à un horizon prévisible. Il y a suffisamment de liens. La hausse du prix du pétrole il y a 2 ans, de façon brutale, mais aujourd'hui, les licenciements, la perte de salaire, le fait que même si on a des indemnités de licenciement, il va falloir les gérer de façon extrêmement précautionneuse. Tout d'un coup, avec le prix du pétrole, la flambée extraordinaire d'il y a 2 ans, et puis maintenant avec ce que ça coûte chaque mois, la question du nombre de gens, de salariés qui sont piégés par la voiture, hein, qui sont piégés par une organisation de l'habitat et de la voiture qui se sentent totalement entre les mains des groupes comme Total et EDF, GDF et Bouygues et consorts. Il y a la possibilité de désigner un certain nombre de groupes industriels précis comme étant ceux par qui la domination sociale a été construite, les pièges ont été créés. De dire que la survie exige que ces gens-là soient désignés comme les fauteurs, ceux qui ont créé les conditions particulières de cette crise qui, donc plus qu'une, enfin, de cette crise économique et financière qui prend des formes particulières, qui se coule dans les conditions de mode de consommation et de formes d'organisation de la production et d'usage d'énergie dont on sait maintenant quelles sont des formes de domination sociale d'un type particulier et une menace. Une menace qui donne cette particularité à la menace, aux menaces immédiates venant du chômage, venant de l'absence de perspective totale, de perspective pour la jeunesse. De ce point de vue-là, on est dans des conditions totalement différentes de la grève générale de 1936. Et l'industrie était toute récente, ses productions semblaient être expression de progrès, de libération. La semaine ou les 15 jours de congés payés pouvaient être quelque chose qui modifie totalement la vie d'un ouvrier. On est aujourd'hui dans une configuration totalement différente où la nature de l'avenir qui doit être posée comme question, et si tu poses la nature de l'avenir, tu es obligé de poser la question dans quel type de société sommes-nous ? A-t-elle la moindre justification ? Tu peux poser la question potentiellement du capitalisme et sous la forme de est-ce que c'est une forme de vie en société qui offre la moindre perspective ? Pour moi, la tâche, c'est de se mettre tous ensemble. Je pense qu'à la tête du NPA, il y a un petit groupe dont les gens qui se sont tournés vers ce parti commencent à comprendre, pensent que ce petit groupe pense à des intérêts propres et très limités, très mesquins de se faire reconnaître par les autres partis, par les syndicats, de faire pleinement partie de façon reconnue, légitime du jeu politique et syndical. C'est pas ça que des centaines et des centaines de gens qui se sont tournés à un moment ou à un autre depuis un an et demi vers le NPA attendaient et attendent encore. Ils attendent quelque chose de ceux qui, comme vous, faites un peu la substance du mouvement social, de ce qu'il en reste, point de réflexion, de point d'échange d'idées. Et c'est là qu'il faut trouver les points de rencontre, de centralisation, de production d'une perspective qui pose donc la question de la propriété capitaliste, qui repose la question de la propriété sociale. Pas avec la perspective de lendemain qui chante. On n'est plus dans une perspective de lendemain qui chante. On est dans une perspective de crise de la civilisation en marche, d'essayer de prendre des mesures pour éviter de terribles effondrements sociaux et peut-être des catastrophes, pour sortir de cette tristesse sociale qui marque cette rentrée. Je pense que c'est une rentrée. On peut jeter la pierre à aucun groupe d'ouvriers, à aucune usine de ne pas combattre plus loin, plus fort. Aujourd'hui, il faut, pour lutter, pouvoir prendre la suite sur une perspective. Et pour l'instant, cette perspective est absente. Et c'est donc ça l'enjeu.
Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait lire ce que tu viens de comprendre ce que tu viens de dire comme un regard pessimiste sur la réalité. Mais moi, peut-être parce qu'on a eu d'autres occasions de discussion, mais j'ai l'impression que tu portes un regard au fond très optimiste sur les possibilités qui s'ouvrent à partir de la crise actuelle et sur le fait que, pour une fois, on a vraiment la possibilité de remettre en cause le fondement de cette société, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production. Le fait qu'on commence à mettre sous les yeux de tout le monde à quel point cet aspect des choses est néfaste, à quel point peut conduire l'humanité vers un désastre, tu disais une crise de civilisation, un désastre écologique, etc. Et à quel point devient nécessaire un changement pour que l'humanité puisse survivre. Ça, il y a une dimension optimiste dans tout ça. Malheureusement, moi je dirais que réaliser que cette possibilité est enfin donnée est une chose qu'on peut faire seulement dans le contexte d'un conflit social développé, déployé sur l'échelle de la société. Et là, c'est un constat pour l'instant de faiblesse, d'absence de forces politiques qui ont réalisé cette nécessité, qui se font porteuses de cette perspective de changement telle que tu l'as définie, où on ne demande pas simplement que la crise soit les riches à la payer, mais où on se pose le problème des fondamentaux de la société. Donc, qui décide, pourquoi faire, pour aller vers où, qu'est-ce qu'on produit, comment on peut sauver l'humanité.
Enfin, je suis à la fois pessimiste et optimiste, mais je sais que cette crise, c'est vraiment c'est un carrefour. Mais je pense que vraiment, c'est la première fois dans toute l'histoire du mouvement pour l'émancipation que la mobilisation va défendre de la perspective, va être aiguillonnée par les questions de survie décente et conditionnée par les perspectives qui sont données. Je pense que la bourgeoisie a une extrême peur de la jeunesse, parce que la jeunesse pourrait concentrer le sentiment que c'est la survie même décente qui est en cause et qu'il faut des objectifs différents de ceux qui ont été défendus jusqu'à présent.
Je t'aime. Je t'aime.